Chapitre 40. Grégory et Peck ouvrent le coffre et enfilent des gilets pare-balles qu'ils dissimulent sous leur veste. Puis ils suivent Yuna sur la route étroite recouverte d'asphalte jusqu'à la sortie vers Rigby.
Les politiciens promettent une baisse du prix de l'essence. On y a cru la dernière fois et on y croira encore la prochaine, dit Grégory. Parce que la vérité, c'est que les promesses exagérées sonnent toujours mieux que les promesses réalistes. C'est comme un piano mécanique.
On peut quand même voter à gauche, dit Peck prudemment.
Quoi?
J'ai juste dit que...
On n'entend rien quand tu parles, le coupe Grégory. On dirait une petite fiotte.
Du calme, dit Yuna.
La route suit une courbe douce à travers un champ strié de neige. Une tour d'observation pour la chasse se dresse en lisière de la forêt.
Des peines plus sévères, disent les politiciens, et les journalistes courent chercher les bâtons comme des chiens, poursuit Grégory. Mais plus sévères, ça veut rien dire. On n'a pas les moyens, les tribunaux sont débordés, les prisons et les centres de détention sont pleins.
Ce qu'il faut, c'est un travail de prévention, dit Peck, et un soutien social.
Quoi ?
Le coupe Grégory. Il s'arrête derrière une grange peinte en rouge de Falloon, juste à la sortie de la route. Des tuiles gisent au sol. Difficile de dire si ce bâtiment appartient aussi à la ferme des Olson.
On reste calme et discret, chuchote Yuna. Pas d'armes visibles, pas de voix forte.
Ils avancent en formation triangulaire dans l'obscurité sur un étroit chemin de gravier. Yuna en tête. Seul leur souffle et leurs pas rompent le silence. Quelque chose clignote dans le fossé. Ils ont franchi un faisceau infrarouge. Un détecteur de mouvement en plastique blanc est fixé à un poteau du portail.
Ils savent maintenant qu'il y a quelqu'un, dit Yuna.
La température semble chuter, tandis qu'ils poursuivent leur route. Une odeur de neige flotte dans l'air. La lumière pâle d'une télé s'échappe d'une des fenêtres de la maison. Ses reflets clignotants dansent tristement sur les branches pendantes des sapins. Quelqu'un coupe du bois. On entend des coups secs, suivis du bruit des bûches qui tombent. Ils approchent des bâtiments délabrés de la ferme. Sur le terrain, il y a un vieux camping-car, d'où pend une bâche verte, un pick-up blanc et 8 voitures, plus ou moins désossées. Le chemin fait une dernière courbe, derrière une grange, puis les mène entre les maisons. En contournant le pignon, il voit un garçon torse nu qui coupe du bois près d'une fendeuse hydraulique. Des poules se déplacent nerveusement entre des seaux cassés, des sièges de voitures arrachés et des pots d'échappement noircis. Les 3 policiers s'arrêtent au milieu de la cour. Peck souffle sur ses doigts gelés. Un petit drapeau suédois pend depuis un poteau rouillé près de la porte d'entrée. Un vieux frigo brun-jaune est appuyé contre le mur près d'un bac en zinc avec un robinet et un écoutoir vissé. Autour d'une table en fer, 4 chaises en plastique sont dépliées. Un homme sort du garage ouvert. Ses épaules sont étroites, ses mains sales. Il porte des bottes en caoutchouc et un imper vert boutonné sur son gros ventre. C'est Åkerberg, le compagnon d'Anne-Charlotte. Ses cheveux gris sont rassemblés en queue de cheval et il porte un foulard à motif cachemire en guise de bandeau.
Tout le monde a vu cette putain d'annonce, dit-il en resserrant sa ceinture. Il nous reste 10 sacs de semences de pommes de terre et 3 de fumier de poule.
Mais on...
commence Grégory.
Personne ne veut de produits chimiques dans la bouffe. Et pourtant, il y en a partout, poursuit Åke. C'est pour ça qu'on est autonome. On a des poules, des moutons, des champs, une serre.
On est venu parler à Anne-Charlotte, dit Grégory.
Je comprends. Sa confiture de framboise, putain, ce qu'elle est bonne. Mais en l'avant qu'en été.
Le son de la télé leur parvient depuis la maison. Yuna essaie de voir par la fenêtre. Le garçon continue à couper du bois en leur jetant un bref regard à chaque nouvelle bûche.
Est-ce qu'on peut entrer un instant? Demande Yuna.
Åke se frotte le nez avec son pouce.
C'est pas possible. Lotta dort.
Vous pourriez aller la réveiller, s'il vous plaît, dit Grégory en remontant ses lunettes.
Bientôt, bien sûr, Mais parlez avec moi d'abord. J'ai l'impression que vous ne voulez pas juste acheter de la confiture, dit Hoke en tirant une chaise en plastique. Asseyez-vous. Expliquez-moi. Qu'est-ce que vous voulez?
Ça concerne uniquement Lota, dit Yuna.
D'accord. Asseyez-vous, je vais la chercher, dit Hoke en faisant un signe vers les chaises.
Il les regarde s'asseoir autour de la table en fer sous laquelle jonchent des mégots et des bouteilles de bière vides. Hoke se retourne, passe sa main sous son imper et en sort une cordelette qu'il enroule autour de son index. N'utilisant que sa main gauche, il sort 4 tasses en métal et une bouteille de liquide trouble.
L'année dernière, on était au marché de Noël, de Carby, raconte-t-il. On a vendu des spécialités, des bretzels, des saucisses à des prix bien salés.
Il va chercher dans le frigo un pot de confiture sans étiquette, puis revient avec une assiette de boulettes grises, peut-être des dumplings.
Faut goûter quelques petites choses, et du jus.
Merci,
dit Grégory en fourrant une boulette dans sa bouche. Elle croustille sous ses dents.
Knut, viens ouvrir la bouteille, dit Hoke.
Le garçon plante sa hache, passe devant la citerne de pluie et s'approche, le regard baissé. Il a le nez sale, son torse maigre et couvert d'ecchymose. Il prend la bouteille de son père et la présente comme s'il était un sommelier.
« Qui veut goûter ?»
demande Hoke en s'asseyant.
« Allez la chercher maintenant, » dit Yuna.
« Lui, il goûte !»
dit Hoke en pointant Peck du doigt. Le garçon ouvre la bouteille, verse le liquide dans la tasse de Peck, puis recule d'un pas. Yuna entr'ouvre sa veste pour avoir rapidement accès à son arme.
« Goûte le jus !» dit Hoke.
Peck fait semblant de boire.
« C'est bon, » dit-il en hochant la tête.
Le garçon remplit les 4 tasses. Une forte odeur d'alcool et d'oignons crus s'élève avant d'être emporté par le vent.
« Goûte pour de vrai !»
dit Hoke.
Peck boit et grimace.
« Un peu amer, mais... »«
La prochaine fois, demande du Baileys, » dit Grégory en goûtant à son tour.
« Et toi, t'en penses quoi ?»
demande Hoke en regardant Grégory avec une lueur étrange.
« C'est fort, mais c'est bon. »
Une fillette d'environ 5 ans, le visage sale, vêtue d'une chemise de nuit rose, apparaît au niveau du garage et s'approche d'eux. Elle tient un lapin vivant par les oreilles. Les longues pattes arrière traînent presque au sol.
« On est là, on passe un bon moment, » dit Hoke. « Je vous offre des boulettes de poulet et du jus, et vous ?» Vous me dites ce que vous lui voulez, à Lota.
Il lui manque des molaires, ceux qui se voient quand il sourit.
On peut revenir la semaine prochaine, dit Yuna.
Non, mais ça va pas, dit Hoke.
Le garçon se gratte le bras, ses lèvres pâles virent au bleu. De petits flocons virevoltent au ras du sol. Grégory enfourne une autre boulette. La fillette fixe les policiers. Le lapin ne bouge plus. Seules ses narines frémissent.
On dirait que vous n'allez pas me dire pourquoi vous êtes là, constate Hoke.
On est ici pour parler à Anne-Charlotte, dit Peck.
Vous êtes vraiment lourd, vous le savez.
C'est pas notre intention, dit Yuna. On repassera un autre jour.
Bois ton putain de jus,
dit Hoke en le regardant droit dans les yeux.
Non, répond Yuna en se levant lentement.
« Le gamin a froid. Il devrait rentrer, » dit Grégory. « Tu la fermes, c'est mon gosse, » dit Hoke d'un ton menaçant.
« Je dis juste que ferme-la, » coupe-t-il.
« Knut, viens ici. »
Le garçon fait un pas et reçoit une gifle. Il chancelle, mais ne relève pas les yeux.
« Mon Dieu, » murmure Peck.
Le garçon reste un moment immobile, puis il retourne en silence vers la hache et continue à empiler du bois. Les poules picorent autour de lui dans l'obscurité.
« On s'en va, » dit Yuna.
Hoke se penche en arrière, halète nerveusement et défait la ceinture de son imper. Les collègues de Yuna voient ce que lui avait déjà deviné. Une ceinture de pain de plastique est fixée autour de son torse.
« Asseyez-vous.
Tout le monde s'assied et met ses mains sur la table, dit Hawke.
Le détonateur est enfoncé dans l'un des pains, à travers le papier protecteur. La goupille est retirée et une cordelette en nylon attachée à l'index d'Hawke est reliée à la tige principale de mise à feu.
« C'est pour vous, » explique-t-il le regard rêveur. « Si vous voulez éviter un accident, moi je m'en fous.